Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale, deuxième partie de notre édition spéciale consacrée aux travailleurs humanitaires. Avec Claudine Joseph, l'une des milliers de femmes qui travaillent en première ligne dans les milieux les plus difficiles et les plus meurtriers du monde. Dans ces contextes, Claudine souligne qu'il importe de préserver son propre équilibre pour mener sa mission à bien. Claudine est basée à Bagassola, dans la région du lac Tchad, au Tchad. Elle commence cette semaine par nous raconter en quoi consiste une journée typique.
Ah, c'est excitant. D'abord, je me réveille très tôt en général. Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup la méditation et j'aime beaucoup aussi tout ce qui touche à la nature. Et ma journée commence toujours avec de telles activités. Mon jardin potager, après la méditation, ensuite c'est les réunions avec les collègues. Alors une journée typique pourrait également consister en des missions d'évaluation, soit des évaluations multisectorielles, mais aussi des missions de monitoring sur le terrain, les réunions avec les partenaires, mais également les prises de contact avec les autorités locales, mais aussi tout ce qui est activité sociale, parce que c'est une région, comme on l'a déjà compris, les gens font face à beaucoup de stress. Alors, l'une des choses que nous, à OCHA, qu'on fait, c'est de mettre en place des activités en social, ludique, qui permettent aux gens de s'épanouir. Et ça aussi améliore la qualité du travail parce qu'on fait venir les partenaires. Nous organisons des activités créatives comme les jeux de société. Également, nous donnons des cours de langue, des cours d'arabe, des cours d'anglais. Et nous faisons pas mal de choses aussi comme le jardinage. Bon, voilà, c'est un peu tout ça. Et dans l'après-midi, en général, puisqu'il y a un décalage horaire de 6 heures avec mon pays d'origine et New York, là où vit mon fils, bon, en général, je me couche rarement avant minuit, 1 heure, parce qu'il faut, à ce moment-là, maintenir le contact avec la famille, les amis, etc., qui sont très loin, fuseaux horaires différents. Voilà, et puis je poursuis également un master 2 en ingénierie sociale et développement local que je fais à distance. Ça aussi me permet de m'occuper. Voilà.
Vous avez mentionné qu'en fait, une des parties qui est importante pour vous, c'est le fait qu'on découvre la complexité. Qu'est-ce que vous avez appris dans le contexte de la crise autour du bassin du lac Tchad?
Le conflit du bassin du lac Tchad, c'est l'une des crise, je pense, la plus complexe qui existe, à mon humble avis. Hein. Je n'ai pas de réponse exhaustive par rapport à ce qui se passe. Mais personnellement, à partir des analyses qu'on fait du contexte, je pense que adresser la crise du bassin du lac Tchad, c'est d'abord adresser les questions liées au développement humain particulièrement. Avant 2015, avant les premiers attentats, on peut toujours aller dans les archives. C'est une population qui a toujours été un peu laissée pour compte. Pas d'éducation, pas d'accès aux services de base. Alors ça constitue une espèce de terreau pour les terroristes. Parce que quelqu'un qui n'a pas de perspective dans la vie, quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a pas accès aux services, tu peux facilement l'emmener en bateau, quoi. Et personnellement, je pense que si on veut vraiment adresser cette crise de manière structurelle et sur la durée, dans une perspective durable, il faut vraiment se focaliser non seulement sur la réponse d'urgence, mais également sur tout ce qu'il faut pour renforcer en quelque sorte la résilience de cette population-là, mais aussi à s'assurer qu'il y a une amorce pour amener le développement dans la région.
Mais en même temps, vous avez dit que c'est des populations qui sont en déplacement permanent, qui fuient l'insécurité.
C'est pourquoi j'ai précisé que c'est une crise très complexe. Je n'ai pas une réponse exhaustive. Comment résoudre ce problème-là? Bon, le gouvernement tchadien, je pense qu'ils font des efforts énormes pour s'assurer que le groupe armé non étatique, Boko Haram particulièrement, n'occupe pas le territoire tchadien. Ils font beaucoup d'efforts pour ça, mais ça ne suffit pas. Parce que Boko Haram, malheureusement, aujourd'hui, personne ne sait qui ils sont.
Donc, ils peuvent être parmi la population.
C'est ça, c'est ça. Ils peuvent être partout. Ils sont parmi nous, d'ailleurs.
Mmh.
ça demande vraiment une approche, je dirais, qui sort un peu du schéma classique. Ce n'est pas juste une crise sécuritaire où c'est l'armée qui peut résoudre. Non, il faut vraiment une combinaison de tout ça. Et il faut aussi une bonne compréhension de la sociologie du milieu. Il faut aussi comprendre que veulent ces gens-là.
Comment est-ce que vous entrez en contact avec les populations, sachant que Boko Haram est parmi eux ou est parmi nous, comme vous dites? Comment est-ce qu'on peut adapter l'appui et l'aide humanitaire?
La première chose, c'est que en fait, la coordination humanitaire s'appuie sur beaucoup de leviers. Il n'y a pas que les agences et les grosses ONG internationales. Nous travaillons beaucoup avec les grassroots organizations. Nous travaillons également avec les leaders communautaires, ce qu'on appelle les boulamas, parce que dans les pays africains, particulièrement au Tchad, il y a quand même des structures au niveau de la société qui existent sur lesquelles on s'appuie pour faire notre travail. On ne va jamais, par exemple, mener une évaluation sans être en permanent contact avec les leaders communautaires. Et ce sont eux qui sont nos portes d'entrée. Et eux, ils connaissent les gens. C'est-à-dire, on ne va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça, partir un peu... Non, donc on prend quand même des précautions et on travaille également avec nos partenaires locaux, particulièrement les leaders communautaires, qui sont vraiment des acteurs clés également dans ce que nous faisons.
Que dites-vous à ceux et celles qui songent à devenir travailleurs ou travailleuses humanitaires?
La première chose que je dis, c'est un travail vraiment qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail où tu te lèves, tu viens, tu fais la routine de 8h à 17h et tu rentres chez toi. C'est un travail, particulièrement ceux-là qui sont déployés dans des régions un peu difficiles, etc. C'est un travail qui demande qu'on s'investisse vraiment à fond. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en tant que personne, il faut vraiment d'abord... Je le disais tantôt à mes collègues, il faut d'abord savoir qui tu es, ce que tu veux, qu'est-ce que tu te donnes comme mission. Ou du moins, essayer de découvrir ça, être conscient de ça. Et à partir de là, le travail que tu vas faire, automatiquement, tu vas le faire avec tout ce que tu es. Tu vas apporter tout ce que tu es dans ce que tu fais. Et c'est ce qui fait la différence. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre un travail ordinaire et le travail humanitaire. Et ceci, c'est à tous les niveaux, hein. Parce que vous autres qui sont ici, là, au siège, si vous n'avez pas cette perspective-là d'apporter le soutien qu'il nous faut à nous autres qui sommes sur le terrain, notre travail ne peut pas être fait non plus correctement. Et c'est à tous les niveaux, à tous les échelons, c'est-à-dire du plus haut du bureau du secrétaire général jusqu'au simple logisticien, jusqu'au simple chauffeur. C'est vraiment un travail extraordinaire, mais qui demande l'implication, mais l'implication vraiment réelle à fond. Avoir cette perspective de servir. Et je pense que c'est ce qui fait notre force comme organisation.
Si une personne souhaite contribuer, si une personne, par exemple, par rapport à la situation du lac Tchad, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au travail d'OCHA, au travail des humanitaires? Comment est-ce qu'on peut faire?
Appuyer le travail humanitaire, c'est d'abord avoir une compréhension du problème. Et en général, on ne peut pas résoudre, les humanitaires ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Et c'est pourquoi nous autres, nous travaillons de manière stratégique à définir quelles sont les priorités et à partir de ces priorités-là, prioriser encore les priorités. C'est-à-dire, nous avons toujours, chaque année, un cycle de planification qui passe à partir de l'identification des besoins, ensuite un plan de réponse, etc. Alors, c'est un peu ça le schéma classique. Alors, ceux-là qui veulent contribuer peuvent toujours s'appuyer sur ce mécanisme-là, qui est un mécanisme validé par tout le monde à partir du gouvernement, du pays, les organisations, les agences et jusqu'au siège. C'est-à-dire, c'est vraiment un mécanisme qui permet à ce que tout le monde se mette d'accord sur ce qui est prioritaire parmi toutes les priorités qui peuvent exister. Mais quand même, il faut toujours rester réaliste. Le travail humanitaire ne peut pas tout résoudre, mais si on respecte un peu ce schéma classique que j'ai mentionné, tout en focalisant le travail sur les personnes, c'est-à-dire la priorité, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des problèmes dans le domaine de la nutrition, nous avons les crises sanitaires, nous avons les crises de déplacement, les mouvements pendulaires, etc. Et tout ça exacerbé par les crises liées au Boko Haram, mais il ne faut jamais perdre en vue que tout ceci, c'est pour les personnes. C'est-à-dire, le focus est sur les personnes. Comment on peut améliorer la vie de ces personnes-là, mais à travers vraiment un mécanisme qui définit de manière stratégique, mais tout en se mettant aussi d'accord, tous les acteurs se mettent d'accord, les contreparties se mettent d'accord sur ces priorités-là.
Le dites est axé sur les personnes, c'est pour les personnes. Est-ce que vous avez une personne, une expérience qui vous inspire quand les choses sont difficiles pour continuer à aller de l'avant en pensant, voilà, j'ai vu l'impact, je sais que pour cette personne, j'ai besoin de continuer.
Oui, absolument. Nous avons des multitudes de cas comme ça et je le répète souvent. Je me rappelle lors d'une dernière évaluation multisectorielle qu'on a réalisée récemment au niveau de 3 groupements de population qui s'étaient déplacés. Mais pour une raison ou pour une autre, c'était très difficile de retracer ces populations-là. Et finalement, quand nous sommes arrivés sur les sites de déplacement, nous avons trouvé des cas de malnutrition, des choses inimaginables. Je me rappelle un petit garçon qui souffrait de malnutrition sévère aiguë, qui était tellement affecté que ses membres étaient paralysés, complètement paralysés. Et c'est un cas qui avait été référé dans l'immédiat à un centre de santé et il a été pris en charge par une organisation islamique, je crois, qui est financée par une grosse banque de l'État islamique. Et cette organisation-là a pu vraiment faire le nécessaire pour l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est en santé, il vit. Ça, c'est des exemples palpables. C'est notre travail consiste à sauver ces vies-là. Il y a beaucoup d'autres cas, par exemple les cas de protection liés au mariage précoce. Nous avons vu des cas poignants. Je me rappelle, sur ce même site, il y avait une petite fille de 13 ans qui avait été donnée en mariage à un septuagénaire. Et la fille, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée dans le lac parce qu'elle ne voulait pas se marier à ce monsieur. Et à partir de là, nous avons vraiment insisté sur les activités de sensibilisation pour la protection des filles, pour éviter ces genres de cas de mariage précoce, parce que c'est très courant dans ces genres de communautés. Voilà, ce sont ces choses-là auxquelles nous faisons face. Et pour nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance, mais en même temps, c'est là où l'humanité peut vraiment se mettre en mouvement, essayer de faire une petite différence dans la vie de ces gens-là, parce qu'ils en ont besoin.
Ça a eu un impact ? Ils ont changé un peu par rapport au mariage précoce?
Ah oui, 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 oui. Dans plusieurs sites de déplacement aujourd'hui, les gens ont compris, ils envoient les filles à l'école. Et nous avons fait une évaluation de suivi. On a trouvé une tendance, la tendance est inversée. Aujourd'hui, les filles sont plus nombreuses à aller à l'école que les garçons.
Ah, c'est satisfaisant.
Ah oui. UNICEF, ils ont construit une école tout de suite. Et puis, aujourd'hui, les filles fréquentent beaucoup plus l'école.
C'est bien, au moins il y a du positif pour aller de l'avant.
Il y a du positif. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. On peut faire quelque chose. Petit soit-il.
Et c'est avec les paroles sages et encourageantes de Claudine Joseph que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire d'ONU Info, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec l'assistance de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.